Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum et nous sommes le mercredi 20 novembre. Semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et ses alentours. Issus de tous les horizons et de tous les secteurs d'activité, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot, accompagnée aujourd'hui de Marin Moffret en régie.
Bonsoir à toutes.
Et ce soir, nous recevons l'équipe de Aremax Marseille. Je suis donc en compagnie de Elissa.
Bonsoir.
De Lola.
Bonsoir.
Et de Yana.
Bonsoir.
Alors, je suis ravie de... je suis ravie de vous accueillir à nouveau. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que nous enregistrons cette émission suite à une petite mésaventure qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc merci d'avoir accepté à nouveau mon invitation. Et je suis vraiment enchantée d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur le vaste sujet de l'événementiel et notamment de la question de production des déchets. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vous suggère de vous présenter, vous, individuellement. Quel est votre parcours? D'où venez-vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes investi dans une structure telle qu'Aremax? Qui veut commencer?
Merci Claire de réitérer cette invitation. C'est un plaisir de se retrouver à nouveau dans les studios de Radio Galère. Mon aventure chez Aremax a commencé en février dernier, à un moment où je voulais m'orienter dans un secteur qui ait du sens et qui ait de l'impact, étant quelqu'un qui aime beaucoup les événements en règle générale, les fêtes en particulier. Il m'a semblé assez logique et très intéressant de m'investir dans cette association, Aremax. Et j'ai répondu à une offre d'emploi, hein, très classiquement, comme on le fait de nos jours sur un petit site internet, je sais que j'ai le droit de citer, donc Job That Makes Sense.
Super plateforme pour recommandationnement. Et est-ce que tu as toujours travaillé dans ce secteur, dans l'événementiel, ou tu as eu un parcours ponctué de différentes expériences?
J'ai commencé un parcours professionnel, si on peut dire, en ouvrant une auberge de jeunesse à Goa. Donc j'ai vécu dans un milieu tout à fait hippie pendant plusieurs années. Et c'était beaucoup de management, c'était beaucoup d'humains, c'était beaucoup de gestion bénévole également. Et c'était de l'événementiel aussi. Il y a eu une problématique très intéressante au niveau de la gestion des déchets, puisque ce n'est pas un pays dans lequel l'État prend ce sujet à bras-le-corps. On est un petit peu obligé de se débrouiller avec ça. Et quand le tonton à qui on a demandé que faire des déchets qu'on vient de ramasser sur la plage, quand il nous a montré cette petite rigole qui se dirigeait vers la mer, on a compris qu'il allait falloir se débrouiller avec nos propres moyens. Et c'est passé directement par la réduction et la prévention des déchets qui rentraient sur le site de l'auberge de jeunesse. Et voilà, on pourra revenir à ce sujet de la prévention un peu plus tard. Mais...
on l'abordera, effectivement. J'en profite pour préciser que Goa se situe en Inde.
Absolument.
Voilà, et donc tu as vécu là-bas pendant plusieurs années et confronté directement à la question de la pollution, et notamment la pollution plastique. Très bien. Qui veut prendre la suite? Lola.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, moi, c'est Lola. J'ai 30 ans cette année et à la base, je ne viens pas du tout du milieu de l'événementiel, enfin, de l'écologie, on va dire, sociale et solidaire plutôt. J'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé dans le marketing pendant plusieurs années. J'ai travaillé à Paris et j'ai voulu faire un tournant. En 2022, j'ai quitté Paris pour m'installer sur Marseille et pour trouver un travail qui ait du sens, un petit peu comme Elissa, du coup. Mm-hmm.
Tu travaillais dans quelle structure, si c'est OK de...
Oui, c'est OK. J'ai fait 2 ans de stage dans le luxe, donc okay. Dans plusieurs structures, wow. Des cosmétiques, mode, hôtellerie. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai travaillé pendant près de 3 ans pour un groupe de fitness allemand.
Donc d'accord.
International. Du coup, ça n'avait absolument rien à voir.
Okay. Et dans le marketing, qui plus
et
est.
Et du coup, le marketing, les réseaux sociaux, les influenceurs. Enfin, okay. Voilà. J'ai fait un petit
okay, bah
burn-out.
Écoute, je me reconnais beaucoup dans ce que tu ouais. dis parce que je suis passée par là aussi okay. avant de bifurquer, ouais, comme on ça. Dit, trouver plus de sens dans son travail.
C'est ça. J'ai voulu trouver du sens et. Donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, je savais que l'événementiel, c'est quand même quelque chose qui me plaisait. Et moi aussi, la fête. Et surtout, et j'aime le fait de trouver des solutions à dernière minute. Enfin, ce côté d'adrénaline qu'on peut ressentir dans l'événementiel. Et donc, du coup, j'ai trouvé ce travail pareil qu'Elissa sur Jobs That Make Sense. Et voilà, ça s'est fait. Enfin, ils m'ont laissé la chance alors que je n'avais pas du tout d'expérience, du coup, dans l'écologie, ils m'ont laissé ma chance chez Aremax.
Super. Et donc, tu as rejoint l'aventure Aremax il y a...
En mars,
d'accord. Ouais. Donc, c'est bientôt les 1 an.
Voilà.
Super. OK. Bah, merci beaucoup, Lola. Et pour finir...
Alors, enchantée. Moi, c'est Yana. J'ai 21 ans et du coup, moi, je suis étudiante en 3e année à l'école l'ESI. Du coup, j'ai pu trouver l'offre d'emploi sur Jobs That Make Sense parce que justement, je cherchais une alternance. Et... du coup, bah, ça m'a paru évident de rejoindre cette équipe, étant donné que j'ai déjà fait beaucoup d'actions dans tout ce qui touche à l'environnement, et ayant été moi-même une présidente d'association ultérieurement. Et en plus de ça, bah, tout ce qui est gestion, management, tout ce qui est aussi qui sort du milieu festif, pardon, et qui touche au bénévolat, m'a pas mal intriguée, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait auparavant également. Je me suis dit pourquoi pas me lancer dans ça.
Ok, donc tu es la dernière recrue de l'équipe Aremax, et tu mentionnais des expériences que tu as pu faire auparavant en tant que bénévole. Est-ce que tu pourrais nous citer une des expériences qui t'aurait marqué
Oui, bien sûr. Bah, du coup, l'année dernière, j'ai fait toute une saison avec... La société Recyclope. Donc du coup pareil, j'étais en train de les aider lors d'événements comme Mars Attack, le Delta, sur la gestion des mégots. Donc c'était soit de la sensibilisation sur le stand, soit on allait vers les bénévoles les festivaliers déjà présents dans le festival, ou alors on passait entre les festivaliers et on ramassait les mégots, ou du moins on faisait un peu des sortes de warning en mode regardez, on a un pot. L'idéal, c'est pas de jeter ton mégot par terre, ça serait quand même de le mettre dans le pot et de voir à la fin la quantité qu'il y a de mégots.
Ouais, et il me semble que Recyclope, eux, vont au-delà de la simple collecte, ils vont revaloriser ces
Exactement.
Mégots pour en faire de l'énergie avec un procédé industriel que je ne saurais pas expliquer. Est-ce qu'on les a déjà reçus, Recyclope ?
Pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Ça ne saurait tarder. En plus, ils sont basés à La Friche. L'invitation est lancée. ok, alors bah, justement, on a commencé à parler de collecte de déchets, en particulier les mégots. Peut-être que Aremax, vous êtes habitué à travailler avec Recyclope, mais avant d'aller dans le détail de vos partenaires et de tout l'écosystème, est-ce qu'on pourrait présenter l'association Aremax? Il me semble que c'est l'acronyme, mais je ne l'ai plus en tête.
C'est la question à 10 points, Claire. C'est l'association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives. Mm-hmm. Je crois que ça, c'est une définition qui a été trouvée assez récemment. À la base, ça ne voulait pas du tout dire ça. C'était probablement beaucoup plus un truc de tougher. L'asso évoluant et voulant un petit peu se structurer et donner une image professionnelle, ce qu'elle est. Voilà, on a trouvé des mots qui cadraient bien avec ça.
Ça tombe bien.
Ça coule, c'est tout à fait cadré. Et donc cette association, c'est une bonne année pour en parler parce qu'elle fête ses 20 ans.
Waouh.
Et cette aventure a commencé... Je vais me lancer sur l'histoire des deux copains, là, c'est sûr.
Bah vas-y, bien sûr.
Le storytelling.
Exactement. On était... ils étaient, il y a fort, fort longtemps, deux copains qui adoraient la fête, qui passaient beaucoup de temps en festival et qui se sont bien rendus compte de la quantité de déchets qui étaient produits et de la non-gestion qui en était faite. Et ils ont spontanément un petit peu trouvé un système D, avec deux bâtons et deux sacs au bout de ces bâtons, et en invitant les festivalières et festivaliers à trier leurs déchets et différencier selon matériaux recyclables ou non. Et c'est un peu là que l'aventure Arémax a commencé, à Marseille d'ailleurs. L'antenne de Lyon s'est créée ensuite. Il y a eu celle de Bordeaux, celle de Nantes, celle de Paris, celle de Marseille. Pas dans l'ordre, mais voilà, il y a 5 antennes au national qui permettent à l'association d'agir à un niveau local et d'être au plus proche en fait des événements régionaux.
D'accord. Et donc à ce stade, donc tu nous as parlé de 5 antennes. On a une équipe salariée, dont vous qui êtes ici présente. Vous êtes combien sur l'antenne marseillaise, au national?
Alors nous à Marseille actuellement on est 4, okay. Donc on a notre collègue qui est parti mais qui devrait revenir cet été, donc on sera 5, mais on a donc la directrice, Elissa qui est responsable événementiel, moi qui suis chargée d'événementiel et d'animation, et Yana donc qui est Viasso et communication.
D'accord.
Et au niveau donc national, on est 35 salariés à peu près, donc, mais ça dépend parce que l'été parfois du coup on a des stagiaires...
Oui, il y a une forte saisonnalité dans votre activité. Et justement, en parlant de votre activité, est-ce que vous pouvez nous détailler vos différents champs d'action ?
Bien sûr. L'association a commencé, comme je le disais, avec cette approche très terrain sur les événements pour gérer les déchets qui sont produits sur site. Cette activité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la gestion responsable des déchets, qui a plusieurs phases. On a une phase d'accompagnement des organisatrices, une phase terrain pendant l'exploitation et une phase post-event, donc avec rédaction de bilan, préconisation et accompagnement pour amélioration les années suivantes. Ça, c'est notre action un petit peu phare. Mais avec l'expertise qui augmente, avec des salariés qui restent longtemps dans l'association, l'association elle-même se structurant et en fait la société cherchant des solutions innovantes de plus en plus pour que l'événementiel devienne de plus en plus responsable, on arrive à dégager des activités un petit peu différentes et plus spécifiques sur notamment des formations, de l'animation, donc on va essayer d'aller à la rencontre des publics divers et variés, ça peut être en entreprise, ça peut être sur des forums, ça peut être dans des centres commerciaux, vraiment dans des milieux très différents pour essayer de les rencontrer, de sensibiliser un petit peu des publics différents à la gestion des déchets. Il y a aussi un accompagnement sous forme de diagnostic où parfois il y a des collectivités ou des événements qui comprennent pas bien pourquoi est-ce que leur gestion des déchets pêche, et dans ce cas-là on va observer ce qui se passe et essayer de leur donner des conseils. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, pour les petits événements qui n'ont pas forcément de budget, on met aussi à disposition notre matériel, donc des supports de tri avec des flux de différentes couleurs pour que ce soit bien facile d'identifier où mettre quel déchet. Et enfin, on fait de l'animation de réseau. Donc, Arémax organise tous les ans un événement qui s'appelle les JIR, les Journées de l'événementiel éco-responsable, dont la prochaine édition, la 8e, se tient à Lyon les 28 et 29 novembre prochains, littéralement.
La semaine prochaine. Et à quoi s'attendre lors de ces deux journées d'événements ?
Eh bien, ce sont des journées dédiées aux professionnels de l'événementiel qui sont intéressés. Pour rendre leurs événements les plus éco-responsables possibles. Et on va avoir des ateliers, des conférences, des projections, vraiment des échanges, en fait, dans cette idée de construire ensemble un événement souhaitable, possible et durable, en fait, parce que dans très peu de temps, on va peut-être se confronter aussi à, non plus un choix, mais des mesures qu'il va falloir prendre un petit peu de manière forcée, autant anticiper, et c'est aussi ça que les GIR nous proposent.
Oui, il va y avoir des obligations réelles, peut-être liées au changement climatique qu'on subit, qu'on observe de plus en plus, mais aussi sur le plan législatif. Je pense notamment à la loi AGEC, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Ok, c'est hyper intéressant. Tu as mentionné qu'il y avait donc certaines structures qui n'avaient peut-être pas le budget pour s'offrir vos services. Donc, si je comprends bien, Aremax propose son accompagnement c'est contre rémunération, évidemment. Vous êtes une association, mais qui fonctionne aussi avec qui a un business model basé sur la prestation de services.
Exactement. Non, mais c'est ça. C'est tout à fait ça, parce qu'on est une association, mais comme on a quand même des salariés, on est basé sur, on fait des devis et des contrats avec les organisateurs et organisatrices d'événements, du coup.
Ok.
Et c'est en fait une association qui dépend très peu de subventions.
Oui.
On est peut-être à 5% du budget qui est par subvention. Donc, c'est grâce à notre activité en fait qu'on maintient ces 35 postes et qu'il y a aussi cette volonté de développer, de pérenniser des postes et de pouvoir assurer un travail dont la rémunération essaye de s'étoffer également. Enfin voilà, dans l'associatif, c'est pas toujours évident de bien payer les gens et on essaye de se pencher là-dessus.
On sait bien que l'associatif n'est pas le milieu dans lequel on peut faire fortune à titre personnel. C'est vraiment des emplois qu'on choisit, comme tu disais Lola, pour plutôt le sens, les valeurs qu'elle porte. Et je suis sûre qu'au sein d'Aremax, vous êtes tous et toutes passionnés par les sujets. En tout cas, par la fête. J'ai cru comprendre que c'était un dénominateur commun autour de cette table.
C'est un critère de recrutement.
Justement, en parlant de recrutement, mais plutôt du côté humain, vous fonctionnez avec les bénévoles. Alors, moi, j'ai une amie, Lisa, si tu nous écoutes, qui a été ou est toujours bénévole à vos côtés. Comment ça se passe pour... comment vous fonctionnez avec vos bénévoles? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Et comment je peux m'engager auprès d'Aremax? Et pourquoi je le ferai?
Alors en effet, c'est le cœur de l'association, en fait, les bénévoles. Depuis tout à l'heure, on parle du secteur d'activité et des salariés. Mais sans les bénévoles qui nous accompagnent sur 90% des événements, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait. Donc il s'agit en effet, par antenne, d'animer un réseau de bénévoles. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on peut se sourcer, enfin on peut rencontrer ces personnes. Il y a aussi beaucoup d'affect, quoi. On demande à nos potes, si ça les branche, de venir gratuitement, du coup, participer à un événement, en passant un petit peu de temps à travailler, bien sûr, mais il y a cet échange, forcément, qui s'installe, où les bénévoles qui viennent nous aider ont l'opportunité d'accéder à un événement qui leur plaît, a priori, de rencontrer d'autres gens sympas qui ont le même genre de centre d'intérêt et de passer un moment un petit peu festif dans un milieu intéressant. Donc c'est ça qu'on propose à nos bénévoles. C'est un réel poste. D'ailleurs, c'est justement le rôle de Yana qui nous a rejoint il y a quelques semaines pour remplacer pendant son absence Jonathan de la Vie Asso. Si tu nous écoutes, Jonathan, big up à toi depuis ton voilier. Et donc, c'est en effet un poste hyper, hyper important. On recrute entre 2 et 80 bénévoles selon les événements par jour. Parfois, on doit découper leur temps de travail en plusieurs créneaux pour pas que ce soit trop lourd, parce que autant les salariés, on peut faire des shifts en événementiel de 10, 12, 15 heures. Autant nos bénévoles, on essaye de quand même les ménager un petit peu. Je pense que légalement, de toute façon, il y a des choses qui sont pas possibles.
Et si vous voulez que les bénévoles reviennent, il faut mieux les ménager. Exactement. Qu'ils passent un bon moment. J'imagine que ça fait partie aussi des valeurs d'Aremax.
Et donc, pendant la saison haute, comme on dit, donc de mai à septembre, leur participation et le fait de les voir est assez naturel parce qu'on les sollicite énormément, on les fait venir sur plein d'événements. À partir d'octobre, il y a beaucoup moins d'activités et c'est là qu'on essaye de développer des ateliers, des apéros, des choses comme ça pour continuer à les mettre bien, quoi, finalement, à animer ce réseau.
Est-ce qu'on aurait des exemples d'événements, des moments conviviaux qui ont été organisés pour vos chers et tendres bénévoles ?
Oui, bien sûr. Alors là, pour clôturer du coup la haute saison, on avait proposé une sorte de visite de Koh-Lanta, mais entre nos bénévoles, donc on a créé deux teams. On a fait, comment dire, on a organisé ça dans le parc Pastré à Marseille. Et donc, on a fait affronter ces deux teams entre elles. C'était très sympa. Il y avait à peu près 8 épreuves avec entre-temps
des conseils.
Des conseils, exactement, ouais. Où chacun devait éliminer quelqu'un, etc. C'était très sympa. Et après ça, on a fait un petit apéro. Et pour donner un autre exemple, la semaine dernière, on a fait un apéro loup-garou. Ça aussi, ça a très bien marché. C'était un moment à nouveau pour se réunir. Et on compte en faire plusieurs là dans l'année qui suit.
Super. Moi, ça me donne très envie. Guilty pleasure, j'adore Koh-Lanta. Donc, je me reconnais dans cette sortie. Admettons, je suis intéressée pour rejoindre Aremax en tant que bénévole. Comment s'y prendre ?
Alors, soit tu peux venir nous envoyer un message sur Instagram.
Okay.
On t'y répondra sans doute. Sinon, ce que tu peux faire, c'est aller sur...
Airtable ?
Airtable.
Un peu technique.
C'est un peu technique, oui. Ça serait plutôt...
Sur le site, peut-être ?
Je suis sûre que sur le site internet, il va y avoir un lien.
Exactement. Sur le site, tu y retrouveras un lien où, justement, tu peux t'inscrire par rapport à l'antenne à laquelle tu veux, en fait, rejoindre. Et ça va t'amener vers un formulaire où, justement, là, tu pourras mettre toutes tes données. Et nous, du coup, par la suite, on pourra te recontacter, on prendra du temps pour faire un appel avec toi, voir qu'est-ce qui t'intéresse, pourquoi tu veux nous rejoindre. Et à partir de là, il faudra juste payer aussi une adhésion de 5 euros. Okay. Adhésion qui, du coup, se porte à l'année. Donc, dans l'idéal, si tu payes ton adhésion dès janvier, au moins là, tu es sûr que ta place, elle est garantie sur toute l'année. Et tu peux participer à tous nos ateliers, tous nos events.
Okay. Et à l'Assemblée Générale de Aremax, qui est quand même un événement que, on
bien
peut
attendu.
Citer. on peut citer donc tous les bénévoles, tous les salariés, anciens salariés, membres du CA, tout le monde est invité à cet événement. L'an dernier, c'était à Lyon. On était à peu près 150. C'était une grosse folie.
Incroyable.
Alors, l'Assemblée Générale elle-même, c'est 4 heures de présentation par antenne, des budgets, des ceci, cela. C'est pas le moment le plus fun, mais c'est que les 4 premières heures du week-end. Et après, c'est...
C'est la fête même.
C'était vraiment super.
Je me suis retrouvée par hasard dans le même Flixbus que Joe. Et du coup, peut-être que vous étiez là, mais c'était au retour. Je vous garantis qu'il n'y avait pas un bruit dans
je
le
dormais,
Flixbus.
Je dormais, moi.
J'étais dedans aussi. C'était très calme. Non, ça avait l'air d'être une belle fête entre équipes, entre gens d'Aremax. Pour finir cette première partie autour de la présentation d'Aremax, donc tout à l'heure on parlait de Recyclop et comment vous pouviez être amené à travailler avec d'autres acteurs de l'écosystème. Alors est-ce que vous travaillez avec eux pour le côté mégot ? Est-ce que vous travaillez avec d'autres structures pour les biodéchets, pour le plastique, le papier, pour le verre ? Je ne sais pas si vous êtes amené à recycler, à collecter le verre.
On travaille avec pas mal d'acteurs qui ont des secteurs, des flux particuliers. Recyclop, en effet, c'est celui qu'on voit le plus, avec qui on a le plus d'interactions. Donc, soit ils distribuent des espèces de seaux en plastique dans lesquels nous, on va ensuite mettre les mégots qu'on collecte soit dans nos cendriers des supports, soit qu'on retrouve dans les sacs poubelles. Ils mettent également sur site des espèces de tours de cendriers qui sont jaunes, que vous avez peut-être déjà vus, chers auditeurs. Ce sont des cendriers nudge où on donne son avis. Soit on est plutôt Rihanna
ou Beyoncé.
c'est en effet des acteurs qu'on croise beaucoup, Recyclop, sur différents événements. Et en fait, si les organisateurs ne travaillent déjà pas avec, nous, on conseille, on propose, on cite. Après, le lien se fait. Nous, à part remplir des seaux, on n'a pas tant d'interactions que ça avec eux. Avec les alchimistes également, qui récupèrent et valorisent les biodéchets, donc qui font du compost à Marseille.
Ouais, qu'on a déjà reçu à l'antenne.
On travaille beaucoup avec eux. Et puis, les prestataires de collecte assez classiques, institutionnels, comme la Métropole, qui nous met à disposition tous nos bacs magnifiques. Mmh. Il y a aussi Lemon Tree, par exemple, avec qui la Friche travaille. Il y a Veolia. Bon, il y a différents acteurs qui font de la collecte de tel ou tel flux.
Ok, bon, on voit que c'est un écosystème très riche qui opère sur le territoire. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle de Marseille parce qu'on est très centré sur notre ville. Mmh. Mais en fait, vous avez une action dans toute la région sud, si je ne m'abuse.
Oui, nous, on est l'antenne de PACA. Donc,
ouais.
Du coup, pour faire le lien, du coup, on part en Corse la semaine prochaine pour faire un diagnostic de déchets.
Donc vous intervenez même hors métropole. Vous avez bien de la chance. Alors du coup, en Corse, vous allez vous occuper de quel événement ?
On s'occupe du marché de Noël. Mm-hmm. Donc on a été sollicité par le service de la ville, de la propreté de la ville. D'Ajaccio.
Voilà.
La Corse, c'est une île.
une ville.
Effectivement. Non, de la propreté d'Ajaccio. Et donc, du coup, qui voulait faire le point sur le marché de Noël, qui trouvait que la gestion des déchets n'était pas bien faite. Et il voulait un diagnostic. On part une semaine. Pour faire le point.
Donc une semaine durant laquelle vous allez analyser quelles sont les sources de déchets, qu'est-ce qu'on retrouve effectivement dans les poubelles, le volume,
comment ça a été préparé en amont avec tous les chalets qu'il y aura sur place, quelles ont été les consignes qu'ils ont reçues, quelle est la typologie de leur des contenants en fait, avec quoi ils viennent comme vaisselle, avec quoi ils voilà. Okay. Donc ça va être très large, on travaille dessus.
La grosse problématique étant de comprendre pourquoi les déchets du marché de Noël sont enfouis, tels des ordures ménagères, alors que probablement la plupart sont valorisables, recyclables. Ouais. Et voilà, c'est un peu là que le service propreté coince. Ouais. Et c'est là qu'on va venir en appui. Donc très intéressant.
Avec une vraie valeur ajoutée et dans l'idée de s'améliorer pour l'édition suivante.
Et on va aussi s'occuper de faire une enquête du territoire et de recenser tous les acteurs et actrices du milieu qui peuvent valoriser les déchets, en tout cas, et... Okay. Et travailler aussi à trouver des solutions éco-responsables, en tout cas, une cartographie des acteurs, voilà.
Cartographier les acteurs et les solutions qui sont présentes sur le territoire, qui sont facilement activables.
Voilà.
Super. Bon, alors je vous suggère qu'on revienne en détail sur votre façon de fonctionner au sein d'AREMAX et des solutions concrètes qu'on peut apporter aux structures qui organisent des événements. Mais avant, nous allons faire une petite pause musicale. Yana, tu as eu l'honneur de choisir le titre. Est-ce que tu peux nous le présenter ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un son de Dabble qui s'appelle You and I. Et c'est un peu une sorte de disco chill. Je suis pas du tout calée en genres musicaux, mais je la décris comme ça. C'est une musique qui m'appelle et je me suis dit que pourquoi pas la mettre, histoire de patienter un petit moment.
Pour faire plaisir aux oreilles de nos auditeurs, auditrices.
Exactement.
C'est parti. Vous êtes toujours sur Radio Galère. Vous venez d'écouter le titre de Double You and I. Et nous sommes ce soir en compagnie de Elissa, Lola et Yana, l'équipe d'Aremax, pour parler d'événementiel éco-responsable, de gestion des déchets et comment les acteurs, actrices des événements s'emparent de ces sujets. J'ai une question pour reprendre cette deuxième partie d'émission. Qui pourra porter le débat? Est-ce que le secteur événementiel est en retard sur la transition écologique? Vaste question, on va essayer de l'aborder en quelques minutes, mais voilà, moi je serais curieuse d'avoir votre vision, puisque vous travaillez quotidiennement avec les acteurs, actrices de la culture, de l'événementiel. Quel est, vous, votre regard sur leurs pratiques?
Alors, ce qui est sûr, c'est que le secteur événementiel, même s'il n'est pas lui-même en valeur absolue extrêmement impactant, polluant et mauvais en termes d'éco-responsabilité, il est très visible, puisque par définition, c'est de l'ouverture, c'est de la présence, c'est du partage. Et donc, il est normal que ce soit un des secteurs qui s'empare du sujet et qui véhicule finalement des valeurs les plus éco-responsables, vertueuses, ouais. C'était ça, les plus vertueuses possibles. Il y a de plus en plus de collectifs, de groupements, d'événements ou voilà, d'organisateurs d'événements qui réfléchissent à cette question, un petit peu comme on parlait des GIR tout à l'heure, où là, il y a différents professionnels du secteur culturel qui se mettent autour de la table et qui réfléchissent à comment faire évoluer le secteur de la manière la plus vertueuse possible. On a également des collectifs comme le COFIS en région PACA, qui va réunir plus largement des acteurs de l'audiovisuel, du théâtre, des spectacles vivants et de voilà, tous les domaines de la culture, pas seulement événementiel. Pour essayer de rentrer un petit peu dans ces cadres. Il y a de plus en plus de bilans carbone des événements qui se font. Et bien sûr, on en entend parler assez régulièrement de ces artistes qui sont invités à participer, par exemple, à des festivals de musique et qui viennent, pendant leur tournée, faire un concert, prendre l'avion, faire des milliers de kilomètres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus trop faire fi de ce genre de questions et il faut qu'on repense le secteur événementiel, le secteur des festivals. Et ça pose un souci d'échelle, ça pose un souci de choix stratégique. Et voilà, c'est, en tout cas, il est sûr que c'est une question très importante pour le secteur.
Lola.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Elissa. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'ils sont encore en retard, dans le sens où on a quand même énormément, nous, de déchets dus à la vaisselle, je trouve, encore sur festival, alors que c'est censé être obligatoire d'avoir de la vaisselle lavable, normalement, en événement, et qu'il y a très très peu d'événements qui concrètement le font,
ouais,
finalement. Et en fait, c'est la plus grosse partie des déchets, clairement, dans l'événementiel, en tout cas, enfin, nous... On s'en a constaté, cet été, c'était vraiment les déchets des petites cuillères tout le temps, enfin, ou des, enfin, c'est un exemple, j'ai dit les petites cuillères, mais je veux dire les pauvres,
des petites cuillères.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé aux petites cuillères, ça n'a pas de sens, mais je veux dire les contenants, voilà, en carton, qui sont à quantité astronomique. Alors qu'il y aurait des solutions tellement plus... Enfin, il y a d'autres solutions, et c'est normalement obligatoire avec la loi AGEC, justement.
Ouais. Mais je crois que Mara avait envie d'intervenir.
Ça fait penser à une pub qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où on voit le fait de servir de la nourriture soit dans un contenant en carton, soit dans une assiette lavable. Et ensuite, ils font toute la chaîne. Et donc, au début, il se passe exactement la même chose. Et pour ce qui concerne le contenant qui est lavable, ensuite il va à la machine et puis c'est deux vidéos qui sont superposées. Celui à la machine s'arrête alors que l'autre continue, et ensuite on voit comment ensuite ils vont aller couper des arbres, fabriquer les contenants, resservir dedans, et de se rendre compte que c'est absolument dingue en fait tout ce que ça va nécessiter en termes d'énergie, en termes de transport, en termes d'emballage, en termes de coupe de forêt pour créer des contenants alimentaires en carton, en fait. Et cette vidéo-là, je crois que c'était il y a à peu près 6 mois qu'elle était sortie. Elle avait fait un sacré buzz parce qu'elle montrait à quel point ça nécessitait une quantité d'énergie et de ressources monstrueuses.
Sauf erreur, c'était un spot de Zero Waste France.
Ah, okay. Ben, ouais. Voilà. Qui était très efficace.
Ouais, ouais. Effectivement. Et aussi, bah, je suis encore étonnée de voir que voilà, il y a des événements qui refusent les gourdes à l'entrée des festivaliers, par exemple, alors que c'est la base. Quand
encore
même.
Une fois, il me semble que ça, c'est une obligation de la loi AGEC.
Ouais. On en trouve, oui, voilà. Mais on en trouve encore dans les gourdes qui n'ont pas été acceptées.
Ouais. Et du coup, elles se font refuser à l'entrée. Voilà. Et il faut ressortir, penser à récupérer sa gourde. Avant de continuer sur le sujet de la, des emballages liés à la restauration. J'avais juste envie de rebondir sur ce que tu disais en termes de transport, le fait que les artistes dans le monde culturel pouvaient être amenés à prendre l'avion, voire même des jets privés pour se rendre sur des concerts, des festivals à tout va sur une saison. Ça me fait penser à la saison dernière, donc c'était en avril dernier ou mai, quand il y avait eu les GIR en même temps que festival Le Bon Air. Il y avait eu ce DJ qui s'appelle I Hate Models qui avait été déprogrammé par Le Bon Air, par le festival, par les organisateurs. C'est quand même très fort parce que il avait une date à Leipzig en Allemagne. Ensuite, il prenait son jet et venait jouer le soir même à Marseille au festival Le Bon Air. Et ils avaient fait toute une sortie, toute une communication sur leurs réseaux sociaux où ils expliquaient que pour eux, ce n'est plus concevable avec les valeurs qu'ils ont, avec les principes qu'ils cherchent à défendre. Ce n'est pas aligné et donc ils avaient fait ce choix très fort de déprogrammer un gros DJ. Hein, c'était une des têtes d'affiche et ça avait fait les titres dans la presse spécialisée, dans la presse internationale. Donc voilà, ça me faisait penser à ça.
Tout à fait. On peut d'ailleurs citer Le Bon Air comme un festival très engagé au niveau éco-responsable. C'est un festival qu'on accompagne depuis plusieurs années, qui se tient à la Friche et qui accueille, comme tu le disais, les journées de l'événementiel éco-responsable. Donc oui, très clairement. Ils ne passent pas à côté de ce genre de trucs. On ne la leur fait pas.
Et donc, est-ce qu'on pourrait donner des exemples d'événements et de festivals qui sont exemplaires, qui ont des bonnes pratiques, qui ont un engagement profond et que vous travaillez avec ou non. Mais peut-être que ça peut donner des idées d'événements auxquels, en tant que bénévole, on peut participer en étant bénévole chez Arimax. Ouais.
Alors, j'ai envie de citer un festival qui sera peut-être un peu surprenant, parce qu'on n'est pas dans le milieu musical, mais c'est le Street Food Festival, qui se tient aussi tous les ans à Marseille, et qui, l'édition passée, pour la première fois, a mis en place la vaisselle lavable sur l'ensemble de ces stands. Donc là, on parle de plusieurs dizaines de stands, il y a peut-être 70 stands qui servent de la nourriture, et qui ont dû faire le choix soit de vendre de la finger food, donc qui ne nécessite pas vraiment de contenant, mais plutôt du papier craft, quelque chose qui est assez facilement valorisable, soit d'utiliser la vaisselle imposée par l'événement. Donc les organisateurs ont loué de la vaisselle lavable, l'ont mis à disposition des restaurateuristes qui distribuaient la nourriture dedans. Cette nourriture était consignée par les restaurateuristes, c'était pas inclus dans le... D'une certaine manière, c'était inclus dans le prix de la nourriture, mais ce n'était pas aux festivaliers, aux participants, de faire cet effort de ramener son gobelet pour retourner son euro, etc. Donc c'était assez transparent pour les participants et participantes au festival. Et c'était, ça incombait en fait aux restaurateurs et restauratrices de prendre en charge ce coût.
Je suis désolée, juste pour être sûre de bien comprendre, est-ce que ça fonctionnait comme la consigne sur l'éco-cup, c'est-à-dire je paye 50 centimes en plus pour mon contenant et après je le ramène, ou bien c'est inclus dans le prix de mon burger, il coûte 8 euros, il y a la consigne qui est comprise, ou bien est-ce que c'est 8 euros dont 50 centimes de consigne?
Alors l'avantage avec le burger, c'est qu'il peut être servi dans du papier craft.
Alors les frites qui vont à côté.
Eh bien, le prix était fixe pour la personne qui achetait les frites. Mm-hmm. Eux, ils n'avaient pas de consigne à récupérer. C'est le restaurateur qui choisissait de ne pas vendre de la finger food, qui louait en fait, cette D'accord. vaisselle. Et donc, il payait le prix de la consigne et il se voyait retourner le prix de la consigne quand les contenants étaient ramenés. En fait, c'est là que Aremax est aussi intervenu. C'est-à-dire qu'on a des outils de sensibilisation qu'on appelle des tables de tri, qui sont tout simplement des tables avec 5 trous dedans, dans lesquels on invite directement les festivaliers et festivalières à jeter leurs déchets dans le bon flux. Et ça, ça facilite des échanges, c'est toujours un moment sympa. Et là, il y avait un de ces flux qui était le contenant lavable, où voilà, on identifiait bien qu'il ne fallait pas le mettre à n'importe quelle poubelle, mais que c'était quelque chose qui allait être lavé et réemployé. Ouais.
J'ai une question à ce sujet. J'entendrais déjà certaines personnes être un peu grincheuses et dire « Ah, mais oui, mais du coup, c'est moi qui vais supporter le poids du fait que des festivaliers, festivalières n'assument pas leurs responsabilités et soit ne les rendent pas, soit les cassent. Quel est le taux de retour en moyenne ?
J'attends toujours la réunion bilan. Je la demande depuis plusieurs semaines à justement Marseille-Provence qui organise cet événement-là. C'est la première fois qu'ils utilisaient ce système. Donc, vu que c'est une pratique qui, en tout cas sur le papier, est très intéressante et va vraiment dans le sens de l'éco-responsabilité, on est très 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 intéressés pour avoir leur retour, pour savoir comment ils l'ont vécu, même au niveau pratique, quoi, comment ils l'ont vécu et est-ce qu'ils souhaitent le refaire dans les années suivantes.
Ouais. Et juste pour rajouter une touche avec mes petites cuillères, du coup, parce que ce qui était vraiment bien, c'est qu'il y avait des couverts mangeables pour le coup, oui. Au street food en plus.
Comment ça s'appelle cette marque qui...
Alors ça, je sais plus. Enfin, je sais pas,
c'est
il y avait pas
de... quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, voilà, il y avait des fourchettes et des cuillères du coup mangeables. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment quand même.
C'est une innovation aussi.
Ouais. Ouais.
Moi, ça me fait penser.
Ça limite vraiment les déchets.
Wheel of Green, gros festival en région parisienne. Enfin, c'est à Vincennes, si on considère ça comme la région parisienne. Eux, il me semble qu'ils avaient. Alors, je sais pas s'ils ont mis en place la vaisselle réutilisable, mais ils ont des contenants qui sont 100% compostables, qui peuvent être ensuite aller dans le flux des biodéchets et donc être méthanisés. Alors, je sais pas s'ils peuvent être compostés ou méthanisés et voilà, est-ce que après du coup ils ont aussi bien sourcé les matériaux pour ces contenants, parce qu'on sait que dans la plupart des contenants que vous collectez dans les festivals classiques ils sont en carton, mais en fait ils ont cette petite couche de cette petite pellicule plastique qui les rend imperméables pour pas qu'on ait de la sauce partout, mais c'est aussi ce qui les rend quasiment impossible à recycler, parce que cette dissociation, le carton du plastique, c'est trop compliqué d'un point de vue technique, et donc c'est des déchets qui ne peuvent pas être valorisés. C'est ça. Ouais.
c'est ça. Alors pour revenir du coup à Wheel of Green, c'est un événement que l'antenne parisienne de l'association Aremax accompagne depuis là aussi pas mal de temps. Et il me semble en effet qu'ils sont passés à la vaisselle 100% lavable. Okay. Et il est possible, la vaisselle compostable, c'est bien, c'est une autre bonne option. Mmh. Le souci qu'on rencontre souvent, c'est que ça prend énormément de place. Mmh. Et que là, quand on parle avec notre partenaire les alchimistes, on leur commande du coup, on essaie de quantifier un petit peu combien de bacs on va utiliser. Selon s'il y a de la vaisselle compostable ou pas, on est sur du simple au double. Et c'est vrai que voilà, en termes de volume, c'est juste pas du tout la même chose.
Oui, et pas le même coût du coup aussi pour les organisatrices qui n'ont pas forcément envie.
Et même tu dis du simple au double, je me dis que ça peut être même plus que le double en fait, parce que entre les
la taille d'un bol.
Ouais. Et pour compléter tout à l'heure ce que tu disais du fait que c'est une obligation légale pour les événements d'avoir des contenants réutilisables, donc ça c'est aussi la loi AGEC, c'est depuis janvier 2023 il me semble, oui si c'est ça, et la loi stipule que à partir de 20 places assises, les restaurateurs sont obligés de proposer la vaisselle réutilisable, tandis que dans les festivals, souvent, et ben, ce sont des manches debout.
Facile, du coup,
d'éviter la loi.
On contourne la loi. Bien sûr. Et dans le cas de street food, est-ce que ce sont eux qui voulu intégrer les contenants réutilisables, ou ça a été sur vos préconisations ?
C'est des préconisations que nous on fait depuis des années, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'ils ont voulu mettre en place. Moi, cette année, j'ai repris en fait le poste de ma collègue Anne-Lise et on a commencé à travailler ensemble sur le sujet. Elle m'avait dit que bien sûr, c'est quelque chose qu'elle leur avait recommandé, mais dès notre première réunion de préparation saison 2024, l'organisateur m'a dit cette année, on fait ça. Et c'était pas du tout nous qui avions proposé de prestataire ou quoi que ce soit. Il a fait ses recherches et voilà, il a été très proactif là-dessus. Ouais.
Et vous, maintenant, vous avez cette expérience-là de voir comment on déploie opérationnellement les emballages consignés. Est-ce que vous avez d'autres demandes d'autres festivals? Je pense, par exemple, au Delta Festival, qui est particulièrement engagé, qui se veut comme un événement éco-responsable.
Alors... oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place sur le Delta, notamment au niveau des partenariats, notamment sur la visibilité qu'ils peuvent donner à vraiment beaucoup, beaucoup d'assos. Il y a littéralement un village,
village d'assos, associatif.
Et ça, c'est super intéressant pour plein d'acteurs locaux. Il y a une brigade verte qui nous aide dans le dispatch notamment du dispositif gestion des déchets, donc des bacs, littéralement on a des dizaines et des dizaines de bénévoles qui nous aident à tirer les bacs tous les jours pour les replacer derrière les bars, derrière les food trucks, etc. Ils ont des chartes d'engagement, ils proposent des options végétariennes. À côté de ça, il y a toujours moyen de s'améliorer. Et on a bien sûr l'occasion, demain on a notre réunion de bilan avec les organisateurs du Delta. Et si on peut parler de pistes d'amélioration un petit peu là, c'est vrai que c'est un festival très grand public avec beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'étudiants. Il y a cette volonté de rendre les choses hyper peps, plein de lumière et de couleurs. Les feux d'artifice quotidiens sont clairement un des points sur lesquels nous, on conseillerait de trouver autre chose qui soit tout aussi impressionnant. Mais voilà, ils sont tirés depuis le large. C'est un petit peu de la pollution pour rien, que ce soit atmosphérique ou au niveau de l'eau dans laquelle ces choses
tombent. Ouais.
Voilà. Après, il y a des choses qui coûtent des sous, bien sûr, mais qui sont quand même... qui deviennent indispensables... les toilettes sèches, notamment. Là, vraiment, on est dans une gestion sèche sur 80% des festivals auxquels on participe. C'est une pratique qui a été démocratisée et qui, en fait, arrange tout le monde. Très rares sont les festivaliers, festivalières, les orgas, qui que ce soit, en fait, qui disent que pas confortable, quoi, d'avoir des toilettes sèches. Quand elles sont bien entretenues, c'est quand même le must. Et voilà. C'est aussi un des points d'amélioration qu'on pourrait voir au Delta qui utilise encore des toilettes chimiques. Ah oui. Et peut-être pour une question budgétaire, parce qu'en effet, il y a des centaines et des centaines de blocs WC sur ce site. Donc ça a un coût.
C'est un gros festival, ouais, effectivement. Justement, là, tu parlais, donc tu évoquais que demain, vous aviez la réunion avec l'équipe du Delta pour faire la phase de bilan. Moi, je me demandais quels étaient les indicateurs pour que vous surveilliez, pour faire votre mesure d'impact. Donc, évidemment, la production de déchets, j'imagine que vous pouvez quantifier tous les déchets que vous collectez. Est-ce que vous allez vous intéresser aussi aux autres indicateurs, qu'ils soient... les bilans carbone, enfin voilà, les émissions carbone qui sont imputables à un événement, les impacts sociaux qu'un événement peut générer. Est-ce que vous avez d'autres indicateurs? Alors que vous, en tant qu'RMAX, vous ne mesurez pas parce que votre cœur d'activité, ce sont les déchets. Mais est-ce que, j'imagine que vous êtes forcément sensible aux autres indicateurs. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme...
C'est vraiment très large, en effet. Si on reste sur les déchets, on peut tout simplement regarder le nombre de flux qui est mis en place et qu'on choisit de valoriser. Au minimum, on est sur recyclage, ordures ménagères, verre. Et puis après, ça s'étoffe. Il peut y avoir filière bois, filière métal, filière biodéchets, bien sûr, filière mégot, filière textile. Bref, ça n'a pas de fin. Okay. Il y a énormément d'autres points sur lesquels on peut conseiller ou apprécier les initiatives des festivals. L'accessibilité. Est-ce que tout le monde, indépendamment de sa situation physique, peut se rendre, peut voir un concert, peut vivre cette expérience.
On parlait notamment, en préparant l'émission, de l'accès aux personnes en situation de handicap. Donc on pense souvent aux personnes en fauteuil roulant, alors que ça représente, il me semble, 5% des personnes en situation de handicap. Mm-hmm. Il va y avoir aussi tous les dispositifs. On parlait de ce gilet qui permet de ressentir les basses, donc un gilet qui fonctionne avec des vibrations ou bien des boucles électromagnétiques à placer dans l'oreille. Ça peut être aussi des espaces PMR. Voilà, vous travaillez aussi sur ces sujets-là en tant que, enfin, pour la gestion des déchets.
Ça rentre pas exactement, c'est pas bizarre, ouais. Non, mais c'est, disons, ça rentre dans le cadre des valeurs que l'association porte. Et ouais. Si on parle d'inclusivité, on peut pas passer à côté aujourd'hui.
Ça fait partie de vos sensibilités, bien
sûr. Absolument, ouais. Absolument. Il y a également ça parle aussi des déchets, mais quels sont les points d'eau qui sont présents sur site. Mine de rien, voilà, c'est cool de dire on ne vend plus de bouteilles en plastique. Si on ne distribue pas d'eau gratuite à côté et qu'on ne permet pas aux festivaliers et festivalières de rentrer avec leurs gourdes, on se retrouve dans des situations un peu insensées où on est obligé de s'acheter une pinte de bière. Ça n'a aucun sens.
Ouais. Oui, et puis c'est vrai que d'un point de vue, en termes de santé, c'est quand même très incitatif. Après, on sait que ça peut découler aussi des comportements qui peuvent être dangereux pour soi, mais aussi dangereux pour d'autres personnes. On pense notamment à tous les cas d'harcèlement en milieu sexiste. Les VHSS, voilà, c'est ça que je voulais dire. Violence et harcèlement sexiste et sexuel en milieu festif. Donc, est-ce que les gourdes consignées, c'est quelque chose qui existe, vous avez déjà vu?
Jamais vu.
Pas à ma connaissance, non.
Jamais vu de gourdes consignées.
Okay. Non, on peut acheter des gourdes en festival, par contre.
Ouais. Du coup. Oui, acheter. Parfois ça arrive qu'on puisse pas entrer avec la nôtre, mais on peut acheter une celle floquée du festoche. Ouais. Le business de l'éco-responsabilité. Oui, en effet, les VHSS, c'est quelque chose sur lequel, enfin, on est également très sensible à ce sujet-là. Nous, en interne, on est pas formés, mais disons que voilà, c'est des sujets qu'on évoque chaque fois qu'on se réunit.
Lors des briefs bénévoles aussi.
Et c'est un sujet qu'on essaie vraiment de faire passer à nos bénévoles sur le terrain, okay. En effet. Pour citer un autre événement qu'on a accompagné à la Friche il y a quelques temps, Utopia Festival, ils avaient vraiment un dispositif pépite à ce niveau-là, avec les Sound Sisters qui étaient présentes, avec plein de petits points hyper facilement identifiables, ou se présenter si on était témoin, victime d'agressions, notamment sexistes et sexuelles, mais j'imagine élargie, bien sûr. C'est pas parce que t'es un mec cis et que tu te fais taper par un autre mec cis que t'as pas droit à un peu de soutien, voilà. Et donc il y avait des ballons violets qui pendaient, il y avait des petits stands, il y avait des gens avec des chasubles en violet, voilà, où on pouvait vraiment, enfin des référents quoi, des référents anti-violence.
C'est super d'avoir ça en milieu festif. Ouais.
Oui, pour le coup, le Delta, il y avait aussi, j'ai assisté en direct même. À des personnes en violet qui... Ouais, une intervention.
Qui venait en aide à...
Ouais,
à
quelqu'un qui était un petit peu éméché.
Ok. Comme quoi,
donc c'était, il y a des patrouilles qui...
Ces personnes ont un vrai impact pour garantir une fête safe pour tous et toutes. Du coup, j'étais un petit peu coupée dans la question de mesure d'impact, les critères, etc. Est-ce que tu arriverais à reprendre le fil?
Ouais, je crois que j'en étais... les VHSS faisaient très clairement partie de ça, donc on a fait une parenthèse élargie dans le fil. Il y a bien sûr l'histoire des mobilités. On a évoqué vite fait celle des artistes, mais il y a celle du public qui est en fait encore plus impactante que tout. Et... sur beaucoup de festivals, bon, à Marseille, c'est relativement facile, entre guillemets, puisque trottinettes, vélos électriques, transports en commun qui sont parfois étendus, les horaires sont un petit peu rallongés, les soirs de Mars Attack, par exemple. Donc voilà, il y a cette problématique-là de favoriser des moyens de transport éco-responsables et de ne pas venir chacune avec sa voiture.
Ouais.
Ça, c'est assez logique.
Encourager le covoiturage. Par exemple, moi, j'avais fait un festival où si on arrivait à moins de 3 dans la voiture, le parking était payant 20 euros.
Mais super. Ouais. Ah ouais, 20 euros, dissuasif.
C'est dissuasif, ouais. Effectivement.
Ah, c'est pas mal.
Après, il est important de le mentionner avant et de ne pas arriver devant le fait accompli. Ouais, effectivement.
J'ai un dernier point quand même par rapport à ces différents critères et quelque chose sur lequel on insiste régulièrement, notamment parce qu'on est dans la sensibilisation aux restaurateurs et restauratrices qui dont l'activité impacte vraiment la quantité de déchets qui vont être produits sur le festival, on leur propose aussi, on leur demande aussi d'une certaine manière, déjà de montrer les origines de leurs produits, de mentionner si c'est bio ou pas, et d'avoir des options végétariennes. Très important. Enfin voilà, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus faire fi non plus de cette option qui n'en est pas une. En fait, en parlant d'inclusivité, ça rentre aussi dans le cadre. Voilà.
Oui, et si on veut même pousser plus loin, il y a des événements comme encore le Wheel of Green où la carte est 100% végétarienne et délicieuse.
Tout à fait.
Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais j'en doute pas que c'est délicieux. L'émission touche à sa fin, mais pour clôturer, j'aimerais vous poser la question surprise, la question que nous posons habituellement à nos invités. Et pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, à mettre vos deux pieds bien ancrés dans le sol, à prendre une profonde inspiration et expiration, et vous voilà catapulté en 2030. Vous êtes en 2030 et Marseille a réussi sa transition écologique et sociale et solidaire. Que voyez-vous ? Quelles sont les odeurs ? Avec qui êtes-vous ? Comment la ville s'est-elle transformée ? Quand vous ouvrirez les yeux, vous serez de retour en 2024.
Oh non.
Et vous nous raconterez ce que vous avez pu voir.
Et puis même, à quoi ça ressemble de faire la fête en 2030
Moi, j'ai vu de l'herbe, clairement, à la place du béton. J'ai envie de débétoniser Marseille, ça manque vraiment de verdure. Plus de petites cuillères en bois. Non mais voilà, de pouvoir se déplacer aussi sans voiture.
Ouais.
Ça, les voitures à Marseille, voilà.
Le bruit.
Ouais.
C'est quelque chose qui revient souvent dans les réponses. Ouais.
T'as vu d'autres choses, Elissa?
C'est vrai que non mais quand tu parlais d'odeur, c'était pas une odeur en particulier qui m'est venue, mais une absence d'odeur.
Ouais.
C'est le dépôt d'échappement. C'est le rêve, ça. C'est le rêve. Et en parlant de faire la fête. J'imagine des événements peut-être à taille réduite, avec une jauge limitée, avec des artistes locaux, avec peut-être même des événements de quartier ou de ville qui s'organisent autour de valeurs vraiment communes et qui ne demandent pas aux gens de se déplacer beaucoup
Où chacun fait sa propre vaisselle.
Ah, génial. Ouais. Oui, des bacs de vaisselle.
Des bacs de vaisselle, comme ça, pas de problème.
Les rêves d'Arémax, quoi.
C'est ça. Faire sa vaisselle.
Moi, j'ai déjà fait un festival où on faisait soi-même sa vaisselle.
Ah, c'est génial.
C'était hyper, hyper convivial, mais tout le monde ne jouait pas le jeu.
Oh.
Et bien, c'est ainsi que nous allons clôturer cette émission. Un grand merci à vous, l'équipe d'Arémax. Merci Elissa, merci Lola, merci Yana. Et donc, on vous donne rendez-vous au GIR, les journées de l'événementiel éco-responsable qui auront lieu à partir de jeudi prochain à Lyon. Pour ce qui est du reste, on vous dit à la semaine prochaine.
Merci.
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 Bonne soirée.